règne des temps. Marc Wetzmann.
Et bonjour à tous. Quels sont les liens qui unissent l'art et la tyrannie ? Cette question sous-jacente au débat médiatique sur les rapports entre l'artiste et son œuvre, il était sans doute inévitable qu'elle se pose alors que se multiplient cette année les commémorations du 50e anniversaire de la mort de Pablo Picasso. Michel Guérin, dans Le Monde de ce week-end, rappelle quelques-unes des aberrations qu'on peut entendre en ce moment à ce sujet, d'un artiste islandais définissant Picasso comme le Harvey Weinstein de son époque, à des activistes du musée Picasso de Barcelone dénonçant un artiste agresseur de femmes, jusqu'au podcast féministe de Julie Bozac, Vénus, s'épilait-elle la chatte, qui a eu plus d'1 million de vues sur YouTube tout de même, pour qualifier Picasso de grosse ordure. Et enfin, le 2 juin prochain, au Brooklyn Museum, une humoriste australienne fera une exposition sur Picasso, non sans avoir précisé avant qu'elle le déteste viscéralement. Donc, pour essayer de rétablir un peu les choses, sans pour autant éluder les questions qui se posent, cette émission sur Picasso et les femmes qui l'ont rencontré. Et pour en parler aujourd'hui avec nous, Annie Maëlys, bonjour.
Bonjour.
Vous avez beaucoup travaillé sur Picasso. Vous travaillez sur Picasso depuis longtemps, hein.
Oui, très longtemps.
En 2002, vous avez aussi publié la correspondance de Léris avec André Castel. Vous avez publié en 2003 Des femmes et des taureaux, une anthologie d'écrits sur la femme dans la littérature tauromachique. Dont il va être, on va parler un peu de tauromachie. Et vous avez réalisé, sur Arte, un documentaire qu'on peut voir en ce moment, en replay, qui est l'histoire de Françoise Gillot et Picasso, dont on va parler en détail. Laurence Madeline, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservatrice en chef du patrimoine, spécialiste de Picasso également. Vous avez publié un premier livre, Marie-Thérèse Walter et Pablo Picasso, biographie d'une relation, et vous publiez récemment Picasso, 8 femmes, chez Azan, dont on va parler également. Et enfin, Stéphane Guégan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, vous êtes critique d'art, vous êtes commissaire de l'exposition. Que je ne dise pas de bêtises, vous êtes conseiller scientifique auprès de la présidence des musées d'Orsay et de l'Orangerie, c'est ça ? C'est bien ça ?
Oui.
Voilà. Vous publiez un livre bientôt sur Picasso en septembre prochain en Espagne, chez un éditeur espagnol. Voilà. Alors d'abord, pour commencer, d'abord, tous les trois, une appréciation sur cette atmosphère un peu particulière autour de Picasso. C'est de l'écume médiatique, mais c'est l'écume médiatique qui est quand même très très visible sur les réseaux sociaux notamment, et qui empêche de voir à la fois l'œuvre et en même temps la complexité des questions. Je voudrais avoir un peu votre avis sur cette atmosphère. Qui est-ce qui veut commencer ? Annie Maëlys, peut-être ?
Oui, je veux bien. C'est regrettable parce qu'elle éloigne de Picasso des jeunes gens qui, au vu de ce qu'ils peuvent consulter sur les réseaux sociaux, s'en éloigne, le condamne. Donc, c'est éminemment regrettable. Et je pense qu'on a suffisamment, les spécialistes de Picasso, moi-même, on a suffisamment d'éléments pour y répondre.
Oui. Laurence Madeline ?
Oui, en fait, ce qui me dérange beaucoup, je trouve intéressant ces sorties parce qu'elles nous questionnent, elles nous obligent à nous interroger sur ce qu'est Picasso, mais le problème, c'est qu'elles reposent sur des faits qui ne sont pas vérifiés, qui sont faux, qui sont des répétitions de répétitions de répétitions, et c'est une histoire qui est complètement plombée par des inexactitudes et qui deviennent du coup inaudibles. Selon moi, mais pourtant bien entendu.
Stéphane Guégan.
Oui, évidemment, il faut regretter cette charge univoque qui repose sur des approximations, sur une déniscience, sur une volonté de diaboliser qui est bien dans l'air du temps, qui d'ailleurs relève aussi d'un certain angélisme, voire d'une incompréhension de ce qu'est le créateur. On confond l'art et la vie, on oublie que l'imagerie érotique a une dimension fantasmatique, qu'elle n'est pas le reflet exact de la vie sexuelle de Picasso, notamment. Je vous entendais parler de l'article de Guérin, mm-hmm, dans Le Monde, et de cet artiste qui expose au Brooklyn Museum.
En juin,
oui. Obligé de dire qu'elle n'aime pas Picasso, mais on n'a pas besoin d'aimer un artiste pour aimer sa peinture et la comprendre. Mm-hmm. Tout ça me semble très enfantin. Mm-hmm.
Mm-hmm. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, Ali Maïlis, dans votre documentaire, votre documentaire est le résultat d'une série d'entretiens que vous avez fait avec Françoise Gillot au fil des ans. Françoise Gillot a été donc l'une des compagnes de Pablo Picasso entre 43
et
52. Vous la connaissez à 53 même. Vous la connaissez depuis longtemps, puisque les entretiens s'étalent sur. C'est pas dit dans le documentaire, mais ils s'étalent sur plusieurs années.
C'est dit, mais très vite dans, oui, le générique de fin. Oui, il y a eu plusieurs entretiens, des entretiens audio, purement audio, dont j'ai tiré un livre, les entretiens avec François Gillot, et puis d'autres entretiens qui se sont déroulés en 96, en 2004, en 2010, effectivement.
Mm-hmm. Alors, ce qui est frappant, c'est pour un personnage solaire tout à fait extraordinaire quand on la voit d'abord telle que vous la filmez, telle que vous l'interviewez, mais aussi dans les archives. Enfin, les images qu'on voit d'elle à l'époque de sa relation avec Picasso sont impressionnantes. Et ce qui est surtout impressionnant, et ce qui ne va pas du tout avec la théorie de la victimisation à outrance, c'est ce qu'elle dit de sa décision. On va écouter tout de suite un premier extrait où on sent quelqu'un qui sait exactement qui elle est et ce qu'elle veut.
Quand je suis venue pour le voir vraiment, je suis venue en faire une cérémonie. Il a été un peu estomaqué parce que, en quelque sorte, lui pensait séduire une jeune fille avec un peu du mensonge que ça comporte, et la jeune fille se laissant séduire en faisant semblant de ne pas comprendre exactement. Et moi, je suis pour la vérité, alors qu'on sache bien ce qu'on est en train de faire. Je suis aussi au courant que vous ne me séduisez pas, c'est moi qui ai décidé de venir aujourd'hui comme ça. Oui, en effet, je suis d'accord. Voilà. Ça avait été en temps de paix, disons, pour dire les choses simplement, et pas pendant l'occupation. Ça ne me serait jamais passé par l'esprit, sans cette finalité de la mort à brève échéance, d'entrer dans une relation similaire avec lui.
Voilà, c'est intéressant parce que d'abord elle replace sa rencontre, sa décision d'être avec Picasso dans le contexte de la guerre, qui est un contexte bien précis où les hommes ne sont pas nécessairement présents. Les hommes, elle le dit d'ailleurs avant, les hommes qui l'intéressent ne sont pas là. Et d'autre part, elle sait exactement ce qu'elle fait. C'est pas du tout la jeune fille qui se laisse séduire par un prédateur.
Tout Gillot est là, toute François Gillot est là. C'est quelqu'un qui n'aime pas, qui aime maîtriser, qui ne m'aime pas être objet mais sujet. Quand on voit son parcours même pictural, quand Picasso fait des portraits d'elle, elle ne veut pas qu'on les intitule le portrait de Françoise. Aussitôt, elle répond par des autoportraits ou des portraits de lui pour garder mainmise sur son image et dire sans arrêt « je ne suis pas que ta créature peut-être, mais je suis une créatrice ». Et donc, le parcours entier de Françoise Gillot, c'est cette affirmation inconditionnelle de son identité, de sa liberté, en dehors de toute entrave, même si elle a subi des influences qu'elle revendique, elle suit sa route, et c'est ça qui est assez exceptionnel d'ailleurs.
Et on va revenir sur cette histoire de portrait, parce que c'est intéressant. Laurence Madeline.
Oui, je voulais juste faire un parallèle entre cette mise en scène de la rencontre, enfin pas de la rencontre, de l'offrande que Françoise Gillot fait à Picasso de sa personne, à la scène de séduction entre Picasso et Dora Maar, où là,
ben oui, j'allais vous poser la question, oui,
va au devant de Picasso en toute conscience et en toute, ça n'est pas une, elle ne va pas s'immoler, elle y va. Elle est consciente, elle est sûre d'elle, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de Picasso, qui a une vie qui est très remplie, et mais qui néanmoins va vers l'artiste.
Oui, vous donnez les détails d'ailleurs. Hein. Vous le dites dans votre livre. Vous dites c'est quelqu'un qui elle a eu une liaison avec Georges Bataille. Elle a rejoint le groupe Octobre. Dora Maar, elle fréquente Breton. Elle fréquente Frida Kahlo, Léonore Fini. Elle n'a pas besoin de Picasso et elle décide de le séduire dans une scène qui est anthologique, hein, puisqu'elle elle s'attable à un café et elle joue avec un couteau. Elle se blesse la main avec un couteau en jouant avec spécifiquement pour le séduire. Elle est présentée officiellement à lui par Éluard sur le tournage du film de Renoir, Le crime de Monsieur Lange, dont elle est photographe de plateau. Et il y a tout de suite une inversion des rôles. Elle est l'artiste et lui devient le modèle. Il pose pour elle, elle le photographie et c'est elle qui décide qui sera son amant.
La séance de photographie dont on n'a pas la date exacte, mais qu'on peut replacer au tout début de leur rencontre, c'est une espèce de phase de séduction de Dora Maar par Picasso et qui renverse, par exemple, la proposition que Picasso avait faite à Marie-Thérèse Walter. Venez dans mon atelier, je vais faire quelque chose avec vous, je vais faire votre portrait. Là, c'est Dora qui conduit Picasso dans son atelier. L'atelier était tout proche, leurs ateliers respectifs étaient tout proches l'un de l'autre, et qui le photographie et qui le captive et qui le capte. C'est vraiment une scène en regardant les photos qui est fascinante.
Alors on va revenir sur Marie-Thérèse Walter pour expliquer qui c'est dans une seconde. Annie Mélis.
Oui, je pense aussi à la première rencontre de François Gillot avec Picasso. Elle est avec Alain Cuny. Picasso s'approche et demande à Alain Cuny de lui présenter Françoise et son amie Geneviève. Et ce qui est étonnant, c'est que tout de suite, Françoise, qui est complètement inconnue, qui a 22 ans, bon, elle sait qui est Picasso, qu'est-ce qu'elle fait? Elle invite Picasso à venir voir son exposition. C'était une petite exposition, sa première avec son ami, dans une maison de couture, ce qu'il fait d'ailleurs. Mais elle place d'emblée leur rencontre sous le signe de l'art, d'abord, et d'emblée, elle s'impose en l'invitant, elle ose l'inviter à une exposition. C'est tout à fait François Gillot, ça.
Oui. François Gillot va avoir... Il y a tout un duel, en quelque sorte, sur la question de l'image de l'un et de l'autre. C'est-à-dire qu'ils travaillent ensemble. Lui fait des portraits d'elle, elle fait des portraits d'elle. Elle tient beaucoup, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, elle tient beaucoup à marquer son regard sur elle, à ne pas se laisser. On va essayer d'écouter un extrait où elle parle de ça, où elle parle du portrait.
Je voulais pas que Picasso appelle les portraits qui faisaient de moi des portraits de Françoise, parce que je trouvais qu'ils avaient fait ça pour toutes les autres. À quel titre est-ce que c'était moi? C'était moi parce que je me trouvais là, mais ça faisait partie de ce qu'il faisait lui à cette époque-là. Et je lui disais qu'il pourrait plutôt les appeler Pablo Picasso.
Voilà. Et vous voulez commenter, Annie Mélis?
Non, je dis, elle veut garder la mamie sur son image. Oui. Il y a une photo célèbre d'un photographe qui s'appelle Michel Sima où Picasso pose... Quand ils sont, c'est au temps où ils sont à Antibes, les premiers temps de leur liaison, ils posent en short et devant un portrait qu'il a fait de Françoise, assez célèbre. Et aussitôt, moi, j'ai trouvé dans le fond de ciment une photo étonnante, c'est-à-dire une autre photo où c'est Françoise qui pose devant le même buffet au même endroit, mais elle est debout, elle n'est pas assise. Elle a un pantalon d'homme, elle fixe l'objectif. Elle a mis le portrait qu'a fait Picasso de lui accroché très haut sur un mur et elle a mis un tableau d'elle sur la même image.
Laurence Madeline, Dora Maar a le même rapport au portrait que Picasso fait d'elle. C'est Dora Maar, c'est la femme qui pleure et elle dit, comme vous la citez, en train de dire « Tous ces portraits de moi sont des mensonges, sont tous des Picasso, aucun n'est un Dora Maar ».
Oui, absolument. Et il faut aussi rappeler que le titre des tableaux que faisait Picasso, à quelques rares exceptions près, ne portait pas de... Il n'y avait pas de portrait d'eux. Il n'était pas exposé comme portrait de Françoise Gillot, portrait de Dora Maar. C'était tête de femme, figure, femme qui pleure. Et Dora, effectivement, en tant qu'artiste, voyait très bien la distance qu'il y avait entre une représentation d'elle, éventuellement, et une œuvre de Picasso.
Et dans tous les cas, Stéphane Guégan, sur ce rapport à l'art, en fait, c'est Dora Maar comme François Gillot, on cite ces deux-là en particulier, sont des femmes fortes, sont des femmes artistes qui séduisent. Et Picasso, en fait, non seulement se laisse séduire, mais il est très 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 amoureux de chacune de ces femmes.
Oui, je crois qu'il l'a été d'ailleurs de toutes celles dont on parle généralement, de toutes celles dont Laurence Nadine parle dans son dernier livre. Le magnétisme est réciproque d'ailleurs, on le sent bien. Il y a parfois même du respect dans le temps de si je puis dire, de l'amour. Hein. Il ne saute pas sur Marie-Thérèse ou sur Olga dès qu'il les rencontre. Il canalise ses désirs, ça lui arrive aussi. Et par ailleurs... On le sait aussi, les femmes avec lesquelles il a différents types de commerce d'ailleurs ont des tempéraments. Il ne leur impose pas une certaine forme de sexualité. Donc il y a dans le jeu amoureux de Picasso, je pense, quelque chose qui est désormais non dit, non vu, et qui relève de l'écoute et du respect, me semble-t-il. Par ailleurs, vous avez raison, ce sont les femmes qui touchent d'une manière ou d'une autre, même Marie-Thérèse Voltaire, dont on oublie parfois la personnalité, qui touche à l'image, à la littérature. Pensons à Fernand Olivier qui disait du Baudelaire ou de l'Alfred de Vigny dans les cafés de l'époque, et cette dimension avait tout pour le séduire. Mmh. On a fini par faire de lui une sorte d'ogre. Vous parliez d'un prédateur, mais presque de monstre, de barbe bleue, sont les termes qui circulent en ce moment.
Oui.
Oubliant le raffinement du personnage, à la fois grand peintre, grand connaisseur de la peinture, grand connaisseur de la littérature, et qui aime à trouver chez ses compagnes c'est le même goût. Des images et du texte.
Laurence Madeleine.
Oui, je voulais juste rappeler que ces femmes, toutes, et je voudrais remonter dès les premières, avaient leur propre parcours et leur propre auto-narration. C'était des femmes qui se construisaient. Et c'est quand même frappant qu'elles changent de nom. Picasso, on parle, les compagnes Germaine Pichot ne s'est jamais appelée Germaine.
Oui, elle s'appelait Laure Gallo. Oui.
Voilà, Eva Gouel s'appelait Eva Gouel, mais elle s'est fait appeler Marcel Imbert. Toutes se rêvaient une autre vie, toutes se construisaient. Quant à Olga Koklova, on a quand même un peu trop oublié que c'était une danseuse importante sur la scène des ballets russes et qui envoyait d'elle une image qui était une image déjà fabriquée. Elle était, quand elle dansait, une œuvre en mouvement. Et donc, il y a quand même à chaque fois, de la part de Picasso, un attrait, un goût pour des femmes qui ne sont pas des potiches, qui sont des femmes avec des envies, des désirs, et une capacité vraisemblablement à résister, à ne pas simplement se faire broyer par Barbe Bleue, terme de Barbe Bleue qui est employé dès les années 60 et qui évidemment fait florès et s'amplifie selon les différentes vagues du féminisme que nous connaissons.
Oui, vous dites que à propos de Germaine Pichon, vous racontez en fait, vous retracez dans votre livre le parcours de huit femmes que Picasso a connues, dont la première Germaine Pichon, dont vous dites qu'elle quitte son mari, elle lui dit j'en ai assez de vivre avec toi, je suis libre d'agir à ma guise. Vous insistez beaucoup sur cet aspect des choses, et en même temps, il apparaît quand même assez clairement qu'il y a un moment donné où Picasso apparaît comme quelqu'un qui ne va pas nécessairement faire attention à ce qui se passe ensuite.
Il agit doublement comme un homme, parce que malgré tout, désolé messieurs, il y a une propension aux hommes à prêter peu d'attention à leur compagne, qu'est-ce qu'elle a encore, elle est fatiguée, enfin on voit très bien pour Picasso, Fernand Olivier se tord de douleur pendant l'été 1909 à côté de lui, elle l'écrit, elle le dit, puis ben, lui va à la chasse, il va peindre, il s'occupe pas tellement d'elle, Eva Gouel va mourir de façon tragique, et puis Picasso ne voit pas tellement ce qui se passe, est inquiet pour sa petite santé à lui, pour son travail, et ça se double, ce machisme ordinaire se double de cet intérêt omniprésent qu'il a pour son propre travail. Eva Gouel est malade, Picasso s'inquiète parce que c'est la guerre, parce qu'il ne sait pas où sont ses œuvres, parce qu'il a du mal à produire, parce qu'il ne peut plus vendre. Donc le machisme ordinaire se double de cet espace énorme qui est occupé par la création.
Annie Maëlys.
Je crois aussi que les différentes compagnes, enfin celles qui ont vraiment compté, qui sont entrées dans l'œuvre, il y a une différence énorme entre elles. Si on peut rapprocher, enfin moi je rapproche beaucoup Fernande Olivier de François Gillot, d'abord parce que ce sont les seules qui ont écrit dessus, mais qui l'ont quitté aussi. Enfin Françoise vraiment définitivement, oui. C'est la seule. Et on peut dire que malgré tout, si elle-même le revendique, hein, Barbe Bleue, François Gillot, c'est pas tellement de la cruauté qu'il peut faire, dont il a pu faire part envers les unes ou les autres, c'est le fait qu'il l'ait conservé. C'est-à-dire, il y a une incapacité souvent chez Picasso à perdre quelque chose. Et on savait même anecdotiquement que ce soit ses cheveux, que ce soit ses rognures d'ongles, il gardait tout, il détestait. Il y avait une angoisse de la perte. Et ses compagnes, en dehors de François Gillot et de Fernande Olivier, c'est vrai qu'il les a gardées, à par-delà la séparation. Elles sont toutes restées, c'est parfois ce qu'il les a perdues. Alors évidemment, Dora Maar aussi est un caractère fort, et je rejoins ce que disait Laurence Madeleine, mais il a exploité, ou elle s'est laissée exploiter, c'est compliqué, une fêlure chez elle qui fait que c'est vrai, elle ne s'en est pas remis non plus du départ de Picasso. Seule Fernande Olivier, et surtout François Gillot, ont mis un terme définitif à la rupture.
Stéphane Guégan.
Oui, au fond, on pourrait s'étonner qu'il ait épousé Olga et qu'il ait eu aussi ce désir-là, parce que très tôt, dès son adolescence, en tout cas dès les premiers séjours à Paris, on voit bien qu'il organise une sorte de polygamie avec une certaine dextérité, d'ailleurs une certaine cruauté. Hein, je suis d'accord pour reconnaître qu'il y a aussi une composante destructrice dans sa relation. Aux hommes et aux femmes, d'ailleurs, hein, je veux dire aux femmes et aux hommes, pardonnez-moi, puisque celui qui a le mieux, à mon sens, dit tout ça, c'est Jean Cocteau. Et donc pour vivre dans l'entourage ou auprès de Picasso, il faut accepter de souffrir. Hein. Plus on est aimé par Picasso, plus il faut accepter de souffrir. Il le dit très tôt. Et il lui-même a beaucoup souffert pour mieux vivre cette relation difficile, paradoxale, avec quelqu'un qui est capable de cruauté comme de tendresse, de loyauté comme de déloyauté, de lâcheté. Mm-hmm. François Gillot insiste beaucoup, Fernande aussi, sur son manque de courage physique.
Oui.
Et puis Apollinaire a pu aussi le vérifier au moment de l'affaire de la Joconde. Mais indépendamment de ça, je pense que d'abord il faut se souvenir qu'il est effectivement un artiste narcissique, sans soi, en dehors un peu de son papa et peut-être de des catholiques. C'est le problème que la psychanalyse ou la psychologie a souvent d'ailleurs traité, hein. C'est un vrai narcissique. Donc c'est lui et l'œuvre. Et puis autour de lui, quelques femmes, quelques enfants aussi, et tout ça doit finalement se construire et fonctionner autour de lui. Ça, on ne peut pas le nier.
Oui, alors effectivement, il y a des points communs effectivement entre Fernande Olivier et François Gillot. Hein. Laurence Madeleine, vous citez une lettre de Fernande Olivier à Paul Léoto disant à propos de sa vie avec Picasso, je m'ennuyais, voilà la vérité. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'était la vie avec Picasso. Il m'aimait certes, il faisait tout pour que je ne manque de rien, il se serait privé lui-même, mais son caractère, jamais un mot, des journées entières assis, l'air préoccupé. J'étais très jeune, j'avais de la peine à m'y faire, et puis une surveillance. Il m'enfermait à clé quand il sortait, d'une jalousie terrible, mais surtout, je vous dis, l'ennui. Françoise Gillot dit dans votre documentaire Animalis, elle dit la chose suivante qui est très intéressante aussi.
Si vous vous mettez dans la position féminine classique, c'est-à-dire d'être subjuguée, séduite, etc., là, vous passiez au moulinet. Vous entriez personne et vous sortiez saucisse, ouais, c'est ça. Et à ce moment-là, ça ne l'intéressait plus. Donc, la seule manière d'être, si vous voulez, en face de lui, c'était d'être capable, justement, d'abord de ne pas tomber dans tous les pièges qui vous tendaient. C'était dans sa nature très complexe de tendre des pièges, d'ailleurs, à tout le monde. Tous les jours, c'est beaucoup.
Voilà, il tendait des pièges à tout le monde, pas seulement aux femmes en fait. C'est un mode de fonctionnement. Il y a une forme de tyrannie en quelque sorte, mais qui demande du répondant, comme le dit François Gillot.
Oui, alors c'est vrai qu'il tendait des pièges. Et à l'épreuve, Jean Cocteau en est témoin, son fidèle secrétaire, mais Sabartès aussi, même Éluard. C'était quelqu'un qui était très exigeant, très dur et cruel, pourquoi pas dire le mot. Mais comme dit Françoise Gillot, si elle a admis certaines choses, certaines exigences de la part de Pablo, puis Picasso, c'est parce qu'il était d'abord exigeant avec lui. C'est quelqu'un qui a mené une vie assez ascétique, ça on oublie de le dire. Hein. À partir de 2h de l'après-midi jusqu'à 2h du soir, il peignait. Et c'était sa pratique artistique qui primait. Il s'autorisait peu de bon temps. C'était quelqu'un qui était dans la 16. Et en même temps, avec une déchirure aussi. Enfin, on ne veut pas refaire de la psychanalyse de comptoir, mais il y a eu des deuils non assumés dans la famille, de la mort de cette petite sœur. Il y a eu des choses très, très difficile. Avec Olga, malgré tout, ça a été un déchirement qu'il exprime à travers ses images. Mais il y a eu des déchirements et on ne sache pas qu'il est, bien sûr, on peut dire pervers narcissique, bien sûr. Il ne faut pas oublier que dans sa famille, il était le petit roi, le seul garçon. Il était adoré, adulé. Mais aussi une grande souffrance, une grande compassion. Et c'est vrai que la mise à l'épreuve des autres faisait partie de son parcours, de même qu'il était dans cette ligne de crête difficile, à savoir que si vous lui cédiez, il vous méprisait ou il vous maltraitait ou bon, il vous retirait toute estime. Et si vous le résistiez, ça lui était insupportable. Oui. Donc, il était toujours dans
C'est pratiquement la définition de la tyrannie. Ouais. Et puis, Annie Cohen-Solal parle de son sentiment d'être étranger partout, de ne pas complètement appartenir, qui explique beaucoup de choses dans son parcours. Laurence Madeline, je voudrais revenir sur un point qui est soulevé dans votre livre par Marie-Thérèse Walter, donc il y a 17 ans et demi quand elle le rencontre. Il se rencontre en janvier 27, il l'a borde dans la rue, hein. Il lui dit « Je suis Picasso et vous et moi allons faire de grandes choses ». À l'époque, il vit avec Olga qui sont pratiquement un foyer. Mais précisément, on a le sentiment qu'en rencontrant Marie-Thérèse, ce qu'elle dit de lui, ça va être au départ une relation secrète, un amour non bourgeois, un amour bohème. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que le fait de trouver, alors que la gloire commence à venir sérieusement, que Olga gère ses relations sociales, on a le sentiment qu'avec Marie-Thérèse, il retrouve quelque chose de l'époque du bateau Lavoir, de l'époque de la bohème, et qu'il le fait en quelque sorte clandestinement. Et Marie-Thérèse dit quelque chose dans votre livre, elle dit « Qu'est-ce que c'était le bonheur pour Picasso ?» Pour lui, c'est comme il viole d'abord la femme, comme disait Renoir, et puis après on travaille. Que ce soit moi ou une autre, hein. Renoir disait qu'il plotait ses tableaux. Donc il y a tout un vocabulaire qui il y a toute une ambiguïté là-dessus. J'aimerais que vous nous en disiez deux mots.
Oui, alors c'est une phrase qui est extrêmement complexe parce qu'elle pose justement la difficulté de ce qui est peint, la part de l'art, la part de l'homme. Dans quel niveau se situe Marie-Thérèse lorsqu'elle emploie ce mot de viol? Est-ce que se situe dans une réalité qui serait la sienne? Mais comme elle convoque Renoir, on se demande si ça n'est pas dans le domaine de la représentation artistique et de la relation entre le peintre et le modèle, le peintre allant chercher quelque chose dans le modèle qui est au-delà de ce que montre le modèle. Est-ce que c'est la relation du peintre avec la peinture qui doit être bousculée, violée? Ce mot-là est employé par certains impressionnistes, notamment, et donc là, ça passe par Renoir. Et puis, ces relations qui sont très, très, les modèles peuvent avoir des relations avec les artistes peuvent épouser leurs modèles, oui. Et puis il y a des artistes comme Puvis de Chavannes et auxquels on ne reproche rien, l'histoire ne reproche rien, parce que Puvis de Chavannes apparaît comme un prude pudibond dans ses tableaux, et il avait cette réputation de sauter sur tous les modèles qui passaient par son atelier et qui ne voulaient pas y retourner. Et tout le monde, en même temps, s'en moquait, enfin, en riait. Braque écrit à Picasso à propos de Puvis de Chavannes. C'est vraiment, tout ça est d'une complexité énorme, et on ne peut pas simplement dire, ben voilà, Marie-Thérèse dit que c'est comme Renoir disait, on viole et après on travaille. on ne peut pas savoir à quel niveau on se situe. Et il faut être extrêmement prudent avec ces paroles, ne pas les réduire, ne pas les retirer du complexe, de leur contexte, et puis bien voir la complexité de toutes ces relations et aussi la façon dont l'histoire de l'art s'écrit. Je voudrais juste dire un mot sur Dora Maar. On dit que Dora Maar, ça a été fini après Picasso, et moi, je ne peux pas me dire simplement que parce que cette femme n'a officiellement aucune autre relation, qu'elle était détruite, finie, sa vie à ne penser qu'à Dieu et à Picasso. C'est parce qu'aussi, on ne lui a rien demandé. On l'a interrogé en permanence sur Picasso, et on ne lui a pas dit, alors, Dora Maar, qu'est-ce que vous faites? On ne l'a pas interrogé sur son travail. Donc, c'est un peu, je trouve que l'histoire de l'art n'a pas été juste vis-à-vis de ces femmes, et s'est très rapidement désintéressé d'elles, après la relation avec Picasso, et pour autant, les a utilisés, réutilisés, à faire des périodes Marie-Thérèse, à faire des périodes Dora, sans savoir ce qu'il y avait derrière.
Annie Maïlis ?
Oui, quand ce fameux entretien avec Marie-Thérèse et ce mot de viol sur lequel tout le monde a rebondi, moi je prends ce même, c'est une impropriété, parce qu'il y a viol quand il y a non-consentement. Or, Marie-Thérèse, toute sa vie, ne s'est jamais plainte. Il y a des choix, faut cesser de considérer les femmes comme objets, elles sont aussi sujets, y compris parfois de l'emprise qu'elles supportent, et dont elles sont parfois consentantes. Il faut le respecter, Marie-Thérèse, dans d'autres entretiens ou ce qu'on peut en savoir, etc., ne s'est jamais plainte de ce statut. Moi, je l'appelle la femme horizontale. C'est vrai qu'il la peint souvent dans des positions de passivité, de même que la dernière compagne, Jacqueline, l'appelait Monseigneur, lui baisait les pieds, mais il n'avait jamais demandé. C'était sa propre initiative. Et quand on voit des personnalités comme Gillot, ce qu'est Fernande Olivier, même Dora Maar, on se dit bien qu'il a vécu avec des femmes tout à fait différentes, avec des comportements tout à fait différents, qui exigent évidemment beaucoup plus de nuances.
Alors, il y a Stéphane Guégan, sur cet aspect des choses.
Oui, simplement, pour revenir au mot de viol, il se trouve en plus que j'ai travaillé longtemps auprès de Pierre Cabanne dans ma jeunesse, donc je me souviens très bien de cet entretien. Il y a là une mésinterprétation évidente. Quand elle parle de viol, il s'agit bien d'abord de caractériser le type d'étreinte que souhaitait Picasso et qu'acceptait Marie-Thérèse. Et par ailleurs, effectivement, elle désigne là, de manière assez subtile, la dimension du fantasme, la fameuse violence, la violence rêvée, qui est une partie, donc, qui fait partie de l'acte sexuel, de l'étreinte. Et par ailleurs, quand on regarde l'iconographie de Marie-Thérèse, aujourd'hui, elle soulève le cœur de certains historiens d'art qui émettent des réserves sur cette sexualité, cet érotisme ardent, fiévreux. Mais l'iconographie de Marie-Thérèse, elle n'est pas faite que de ça. Picasso la montre rêveuse, la montre endormie, la montre maman tendre, le lexique, si je puis dire, érotique ou sensuel chez Picasso est d'une rare finesse. La caricature actuelle ne retient que les étreintes, encore sont-elles d'ailleurs très rares, mais plutôt et met l'accent sur les nus les plus luxurieux, dirions-nous, mais ils ne sont qu'une partie, finalement, d'une imagerie beaucoup plus complexe, beaucoup plus subtile, beaucoup plus respectueuse, et de la femme, et de leur rapport. Marie-Thérèse, effectivement, ça vient d'être rappelé, ne l'a jamais accusé de la moindre violence sexuelle, c'est-à-dire violence réelle.
Alors, je voudrais qu'on finisse cette émission sur Françoise Gillot et sur ce qui s'est parce qu'il y a un moment donné où vous le montrez dans votre documentaire Annie Maïlis, il y a un moment donné où la tyrannie devient réelle, particulièrement après-guerre. Ça coïncide avec le moment où Picasso va adhérer au Parti communiste. Françoise Gillot le dit littéralement, elle dit que c'est à partir de 46 qu'il devient qu'il est devenu un tyran de première catégorie, elle dit. Toute une société se met en place autour de lui aussi. Le contexte social joue beaucoup. Elle dit que c'était comme vivre avec Louis XIV, quoi. À partir du moment où il accepte d'adhérer au Parti communiste, qui à l'époque est le parti quand même le premier parti de France en termes culturels, le second en termes politiques, mais quand même c'est très très puissant à l'époque. Il devient une sorte de roi et on se presse autour de lui. Et là, il n'est plus question d'avoir le moindre avis divergent. Et c'est là où Françoise Gillot, elle, va maintenir son indépendance. C'est ce que vous montrez, c'est la complexité de la relation entre les deux, où elle prend le pouvoir. Vous suggérez à un moment donné dans votre documentaire que vous faites tout un parallèle avec la tauromachie, où lui serait le taureau, en quelque sorte, et elle, la toréador, l'amazone, comme on l'appelait, puisqu'elle faisait du cheval. Il y a tout ce rapport-là.
Oui, ce rapport, on le voit à travers l'imagerie, quand il peint et dépeint toute une série de toiles où on reconnaît bien distinctement Marie-Thérèse. À partir de l'enlèvement d'Europe, Marie-Thérèse est une femme orgasmatique, qu'une vraie femme torero, comme dit la mort. On l'a intitulé, il titrait très peu de ses œuvres. Hein. Il est daté soigneusement parce que c'était son journal, mais parfois on a titré un peu vite, Minotaure, etc. Donc on voit femme endormie, femme... dans une espèce d'extase, alors que quand il va reprendre ce thème avec Françoise Gillot en 46, elle chevauche un taureau, c'est l'enlèvement d'Europe, mais elle est droite, comme une espèce de totem impressionnant, une espèce de virago, et elle le menace d'un gros couteau. On voit toute la différence, et justement à travers des relations fondamentalement différentes, une posture fondamentalement différente aussi. Mmh. De même, Dora Maar, quand il la peint, la fameuse magnifique œuvre où le Minotaure la surplombe, il n'est pas sur elle, il est à côté d'elle, elle le défie du regard, enfin si on regarde de près, et très vite, il va la peindre elle-même avec des petites cornes, comme il a fait pour Françoise, des poils, etc., en femme taureau.
Alors, Françoise Gillot va finir par partir. Picasso va lui en vouloir beaucoup. Elle va écrire ce fameux livre qui va sortir en 65 en France sur sa vie avec Picasso. Et là, il y a un certain nombre de choses qui se passent. On est dans une autre époque. Dans la question de la tyrannie de Picasso, il y a aussi le début de la presse People. En quelque sorte, Picasso est devenu entre-temps le premier artiste People d'une certaine manière. Il fait la couverture de Match. Et le livre de Françoise Gillot va faire l'effet d'une bombe. On va reprocher à Françoise Gillot de dire des choses qui auraient dû rester dans le domaine du privé, alors que Picasso lui-même s'exhibe, en quelque sorte. Et c'est là que va y avoir cette fameuse pétition lancée par les Lettres Françaises, donc par le Parti communiste,
Pierre Dex
et Aragon, et qui va demander l'interdiction du livre de Françoise Gillot. Il y a même un auto-da-fé qui va être organisé, et les signataires de la pétition la liste est hallucinante. Hein. Alain Cuny, Jean-Louis Barrault, Jacques et Pierre Prévert, Madeleine Renaud, Michel Léry, Serge Reggiani, Vercors, Neruda, c'est fou.
Oui, les plus grands nombres, pratiquement, on peut compter ceux qui n'ont pas signé. C'est vrai, c'est étonnant. Quand elle m'en a parlé de cette pétition, j'étais quand même très, très étonnée, puisque tous ces gens étaient des défenseurs de la liberté d'expression contre la censure. Ils n'avaient pas lu le livre, d'ailleurs. Hein. Et je suis allée chercher, effectivement, je l'ai retrouvé. C'est pour ça que dans le film, j'ai soin de la montrer, parce qu'on l'a reproché. C'est un fait réel. Mais il faut aussi imaginer qu'à l'époque, la puissance du Parti communiste... Alors, Françoise me disait toujours, oh, mais Picasso, c'est pas un communiste, c'est un vrai anarchiste. Alors, c'est vrai que... Bon, Nicolas Solal explique pourquoi, l'intérêt qu'il a eu à s'abriter en étant au Parti communiste, c'est sûr. Mais de fait, il n'avait rien de communiste dans les faits. Cela dit, c'était leur plus belle prise. Ils l'ont protégé. Ils ont mené une guerre très difficile, très dure, dont elle s'est difficilement remise contre François Gillot. C'est vrai, auto-da-fé, descente des militants dans la librairie pour supprimer le livre et toute cette polémique qui fait que ça lui a beaucoup pesé. Mmh. En plus, c'est un livre qui a été rewrité, coécrit à Carlton Lake. Et voilà.
Donc aux États-Unis, ce qui ajoutait un élément dans le cadre de la guerre froide.
Elle était partie chez le grand Satan et ça, c'était pas pardonnable.
Laurence Madeleine, on a le sentiment, quand on suit l'histoire de Picasso à travers les 8 femmes dont vous faites les portraits, on a le sentiment de cette évolution aussi. Ça commence au bateau Lavoir dans une atmosphère post-anarchiste en quelque sorte, et ça finit avec, au début de la guerre froide d'une certaine façon, pendant la première partie de la guerre froide, dans une espèce de totémisation du maître. Et là, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la tyrannie qui s'est mis en place entre-temps.
Oui, enfin moi je vois pas les choses exactement comme cela. Oui. Je rappelle alors parce que en fait il y a aussi la presse qui s'étend de plus en plus, qui prend de plus en plus de place. Mais quand Picasso fait la demande de divorce avec Olga, ça apparaît dans les journaux, c'est commenté, ça ne reste pas totalement dans le secret des cabinets d'avocats. C'est porté sur la place publique. Toutes les sorties de Picasso avant-guerre sont notées. On le voit ici, on le voit ailleurs. Il portait un pull blanc. En fait, ça fait quand même très longtemps que Picasso est au devant de la scène et attire les regards. Et là aussi, ce sont des éléments qui sont importants pour pouvoir comprendre les enjeux des relations avec ces différentes compagnes, et aussi ne pas faire simplement, comme l'a écrit très justement Françoise, comme elle est frappée de l'apparition partout de Picasso dans Paris. Ça fait quand même une vingtaine d'années que cette starisation est en place. Elle s'accentue et il y a effectivement le choc de l'adhésion au Parti communiste et puis toute la presse qui va derrière. Il faut aussi voir que Picasso est un homme qui est confronté à son temps. Et vous citez la pétition contre Françoise. Oui, oui. Une pétition qui est quand même une pétition d'arrière-garde. Il y a quand même beaucoup de... Ce ne sont pas les jeunes artistes qui sont montés défendre Picasso. On est quand même dans une... Ce sont les gens de sa génération ou de celle juste après, et on est dans un combat un peu d'arrière-garde dont finalement Françoise triomphe.
Oui. On va devoir arrêter cette émission ici en espérant qu'elle a été un peu utile pour remettre les choses un peu à l'endroit. Voilà, merci à tous les trois. Merci Laurence Madeleine. Picasso, 8 femmes aux éditions Azan. Merci Annie Maylis. Votre documentaire Pablo Picasso et François Gillot est visible sur Arte en replay. Je signale aussi la sortie de Picasso, La femme et le taureau aux éditions Georges Naef et la réédition de vos entretiens avec François Gillot aux éditions Sylvana Editorial. Et merci Stéphane Guégan. Votre livre donc sortira à l'automne prochain, et si je rappelle rapidement le titre que je n'ai pas d'ailleurs, Diffusion Picasso qui sortira à l'automne prochain. C'était Signe des Temps, une émission de Marc Wetzmann assistée de Aurélie Marseille, avec à la technique Marie-Claire Oumabadi et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.